voilà, vous avez eu tous les scores. Nous attendons vos appels sur le 202 619 31 40. Sans plus tarder, analyse et commentaires de nos chroniqueurs sur les résultats du dernier tour éliminatoire hier. Je parle du Chan, évidemment. Alors, dans la zone Ouest A, Mali-Mauritanie 2-1, Guinée-Sénégal 2-0. Élisée, merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc, votre commentaire à ce soir.
Oui, bonsoir Jacques Aristide. On a eu de très belles informations concernant l'Afrique de l'Ouest, notamment le match Niger-Togo, puisque vous l'avez déjà donné quelques autres résultats, puisque la Guinée était face au Sénégal, hein, c'était à Bamako, 2-0. Les Guinéens, c'est vrai, sont touchés par l'épidémie Ebola, hein, qui ne joue pas forcément à la maison, puisque depuis un certain moment, hein, cette formation joue presque toutes ses rencontres, hein, du côté de Bamako. Eh bien, c'est une très belle performance. Il faut le souligner, puisque elle a devant pratiquement pas devant des Guinéens. Et là, si on arrive à réaliser une telle performance, il faut les féliciter. Mais il reste encore le match de tour. La semaine prochaine, c'est après ce match-là qu'on saura réellement les équipes qualifiées pour ce championnat d'Afrique des nations de football réservé. Il faut le préciser, Jacques Aristide, aux joueurs évoluant uniquement sur le continent africain. Donc, raison pour laquelle le niveau n'est pas tellement si considéré. Donc, c'est-à-dire que les Guinéens qui ont désormais un très bon championnat, épaulés par des hommes d'affaires, hein, notamment le Afia de Conakry, que ces équipes-là font de très belles choses dans le championnat. Et l'AS Kaloum, hein, pour encore le Oroya qui a été sacré champion cette année. Donc, c'est ces clubs-là qui ont révélé de très bons joueurs, hein, pour pouvoir composer avec cette équipe locale. Maintenant, le Niger qui s'est bien comporté face au Togo, le Togo qui est en crise, hein, tout comme le Bénin, vous le savez très bien, le Togo qui n'a plus de championnat, eh bien, Tom Schind, le sélectionneur togolais, l'a déjà dit, une semaine avant ce match, que vraiment, il n'y a pas de championnat, donc il voudra composer avec les joueurs qui ont pris part des tournois de quartier, mais ça n'a pas suffi, puisque les Nigériens, très en forme, ont pris la mesure de cet Togolais, mais on a assisté à de très belles confrontations ce week-end, donc on attend vivement les rencontres retour pour être vraiment fixé sur les équipes qui seront qualifiées pour la phase finale qui aura lieu du côté de Kigali. Au Rwanda.
Oui, en tout cas, Élisée, bon, le Chan, il faudra qu'on accorde toute notre attention. Hein. Je pense que peut-être votre appel, j'espère, a été entendu ce soir. Hein. Et parce que c'est important et c'est pourquoi nous en parlons sur VOA Afrique. Et maintenant, j'ai en ligne Jules. Jules, bonsoir. Votre commentaire général un peu sur tout ce qui s'est déroulé ce week-end?
Oui, bonsoir Jacques. C'est surtout au niveau de l'Afrique centrale, on l'a vu, le Gabon a fait un bon résultat au Tchad, et 2-0 en déplacement, et c'est un résultat logique bien sûr quand on voit la hiérarchie actuelle du football africain où le Gabon s'est hissé et pratiquement dans le peloton de tête, et on sait aussi que ce pays a non seulement acquis un statut respectable à ce niveau, mais il possède un championnat sérieux, d'un bon niveau, bien organisé et financé, et a aussi la réputation d'être un pays de formation. Donc, le score de 2-0 à l'extérieur est assez confortable, et le pays se trouve en ballottage très favorable. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, pour le Cameroun et le Congo, pour lesquels tout reste à faire. Là, on a vu que les Camerounais, comme à leur habitude, généralement, à la première rencontre, ils ne sont pas très bien préparés. Et de même, pendant cette rencontre, on a vu que les automatismes n'y étaient pas. Il y a eu beaucoup d'occasions de buts ratés. Il n'y avait pas assez de lucidité dans les dernières passes. Et donc, finalement, le score de 0-0 a un peu arrangé tout le monde. Tout est à faire au match retour. Mais c'est à l'image de la plupart des matchs des éliminatoires du Chan. Les équipes ne se connaissent pas au premier match. Et généralement, les matchs deviennent plus tactiques. Au retour.
J'ai également en ligne Christophe Nkurunziza, notre correspondant à Bujumbura. Alors Christophe, il faut le dire, vous êtes d'ailleurs l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Burundi. Alors je vais voir un petit peu ce qui s'est passé dans votre région, hein, la zone centrale, RD Congo, Centrafrique forfait, Cameroun, Congo, 0-0, Tchad, Gabon, 0-2, et dans la zone centrale est, où il y a votre pays évidemment, Ouganda, Soudan, 2-0, Burundi, Burundi-Éthiopie 2-0. Et donc, quelles ont été vos impressions sur, tout cette, sur toutes ces rencontres ce week-end?
Oui, on voit très bien que le Gabon a pris une grande option pour la qualification, de même que le Burundi. Quand ils ont battu l'Éthiopie ici 2-0, on a vu très bien une équipe qui était assez soudée à tous les postes, que ce soit au niveau de la défense, au niveau du milieu, au niveau de l'attaque. On a vu effectivement une certaine jeunesse qui se connaît ces derniers temps, qui s'entraîne ensemble. Et je crois que d'ici une semaine, il y aura une certaine qualification du côté des Burundais, des Intamba de Burundi, des Hirondelles du Burundi. Mais du côté du Cameroun, du côté du Gabon plutôt, il y aura sûrement une qualification du côté gabonais.
Oui.
Mais on voit très bien qu'il y a une certaine jeunesse au niveau des championnats locaux qui commence à bien jouer au football, même si les moyens pouvaient suivre, il y aurait moyen d'assister à une éclosion de certains jeunes footballeurs burundais, comme il y a 20 ans dans la capitale burundaise ou dans la capitale congolaise, mais également dans la capitale des pays d'Afrique centrale. Donc on voit très bien que le football est là, mais les moyens ne suivent pas toujours pour essayer d'épauler ces jeunes à évoluer à un niveau qui est assez élevé. Mais peut-être demain après-demain, les moyens vont suivre et le football en Afrique centrale pourra recoller.
Voilà, c'est ce que nous espérons. Alors, nous allons rester dans la région où j'ai au téléphone Alphonse Mbouaki. Alphonse, bonsoir. Quel est votre commentaire?
Bonsoir, moi, je voudrais commenter toujours la deuxième partie de votre...
Michel Platini, allez-y rapidement, on va y revenir tout à l'heure, mais allez-y.
J'allais dire que Platini est vraiment fragilisé parce qu'il a des mains sales. Lui, il a été dans les systèmes, donc si on les lit, il va continuer la même méthode. C'est pourquoi je pense que la CAF, la CONCACAF et la Confédération asiatique, je ne pense pas qu'elle soit favorable à l'élection de M. Platini. Chacune de ces confédérations a ses candidats. Par exemple, le président du Libéria aussi ambitionne d'accéder à la présidence de la FIFA. Également, le prince Ali. Je pense que les deux-là sont favorables à être élus. Peut-être, sûrement, ils vont tenir cette grande instance de football normalement, correctement.
Oui. D'accord.
Une bonne gestion.
Oui, merci bien, Alphonse. On va y revenir tout à l'heure, comme je l'ai dit, mais je voudrais revenir au CHAN. Bon, la RD Congo, déjà connue, n'est-ce pas? Parce que la Centrafrique s'est déclarée forfait. Donc, on ne peut pas vraiment mesurer la force des Congolais, n'est-ce pas? J'ai avec moi un Congolais, Eddy Sango. Eddy, votre commentaire?
Oui, mais la RDC est bien connue au niveau du CHAN, parce que la RDC était le tout premier pays à avoir remporté les CHAN en 2012, si je ne m'abuse. Et on sait que la RDC est un grand pays de football. Bon, malgré tout le problème qu'ils ont parfois d'organisation, s'ils y mettent du sérieux, ils pourront encore faire mouche cette année.
Et je sais que vous êtes occupé en fait de la page Facebook aujourd'hui, vous avez mis toutes ces questions et concernant le CHAN, quels sont les commentaires qui sortent de tout ce qu'on a publié?
Oui, beaucoup de pays, ça dépend. Vous savez, dans les sports, c'est les cœurs. Donc, les Maliens disent que c'est les Mali, les Congolais de la RDC disent que c'est les Congos de la RDC. Les avis sont partagés selon les sentiments et les appartenances à chaque pays. Mais l'information, il y en a, vous savez, par exemple, la RDC, bon, ça c'est une annonce. Maintenant, ça sera question de mettre ça en pratique. J'ai vu que les le sélectionneur national qui est bien connu, Floribert Ibenge, parle déjà d'un internement au niveau de Goma et il dit aussi que la RDC va participer à un championnat de préparation en Angola où participeront aussi d'autres pays, de grands pays de football comme par exemple l'Angola, la Zambie et d'autres.
Et voilà, comme Christophe en fait le disait tout à l'heure, c'est pour espérer que vraiment le football redécolle dans cette région. Merci bien, Eddy. Sporama continue sur VOA Afrique. Jacques Aristide avec vous. Et de l'autre côté, il y a notre ami Georges Léonard Sagnou qui attend vos appels. Un football encore. Bon début de l'Afrique en Coupe du Monde des moins de 17 ans au Chili. Bonne entrée en matière des Golden Eagles du Nigeria samedi. Ils ont battu les États-Unis par 2-0. Un peu plus tôt, les cadets guinéens n'avaient pas déçu non plus lors du match d'ouverture face à la sélection anglaise des 3 Lions. Cadet. Les Guinéens ont pu tenir tête aux Anglais un partout grâce à un but de Nabi Bangoura. Un bon démarrage que les cadets du Chili essayeront de poursuivre demain dans le groupe B face à la Corée du Sud. Alors, Élisée, les cadets guinéens, malgré la différence de conditions de travail qui était largement en faveur des Anglais, sont loin d'avoir été ridicules au cours de cette rencontre.
Bien évidemment, Jacques, puisque les Guinéens n'ont pas démérité, vous l'avez dit, ils ont même tenté de marquer à plusieurs reprises, mais c'était sans compter sur la détermination des Anglais qui ont cherché coûte à coûte à garder ce score, puisque là, à la fin de cette explication, on a vu physiquement ces Guinéens étaient au-dessus des Anglais. Maintenant, le plus important, c'est de ne pas perdre. C'est ce que ces Guinéens ont fixé comme objectif, puisque depuis des années, la Guinée n'a plus participé à une phase finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. On se rappelle en 87, ces Guinéens ont terminé sur le podium. Donc, c'est dit que c'est un bon retour pour ces Guinéens. Maintenant, c'est de faire une très bonne prestation et histoire de se qualifier pour le second tour. Mais tout reste encore puisque dans un groupe où il y a encore de très belles formations concernant le football des moins de 17 ans. Il faut dire que les Guinéens ont beaucoup de choses puisqu'ils ont de pas hausser le niveau de leur jeu s'ils veulent bien sûr accéder au second tour.
Et Jules, pour revenir au cadet nigérian, ils affronteront les Chiliens le 20 octobre à Vina del Mar. Alors, faut-il s'attendre à ce que les jeunes nigérians poursuivent cette belle lancée, continuent cela? Jules. Alors, Jules, il va revenir. Nous avons un auditeur au téléphone, voilà, de Conakry. Conakry nous appelle. Nous allons plutôt prendre cet appel d'un auditeur de Conakry. Allô, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. Ousmane, allez-y.
Je voudrais parler pour la Guinée. Je suis dit qu'à des airs, bonne chance et surtout bon parcours sur l'air. Coupe du Monde, et j'espère qu'ils vont se qualifier pour les quarts de finale.
Et voilà, et j'imagine que vous avez bien apprécié, quoi, que quand même, lors de cette match d'ouverture, ils ont fait très bonne impression.
Oui, ils ont fait une très bonne fête, très bonne match, et ils ont beaucoup de jeunes qui ont du talent, et je sais aussi qu'ils vont beaucoup évoluer, vu leur parcours qu'ils ont fait au Niger, et ils ont fini troisième du CAN. Et je crois bien qu'ils vont aussi aller de loin dans cette mondiale aussi. Mmh. Et leur jeune aussi, il y a un jeune qui s'appelle Labassam Diallo. Je l'apprécie beaucoup et il est très, très, très talentueux. Et lui aussi, il va faire du mal au milieu là-bas.
Voilà, en tout cas un petit clin d'œil à Alassane Diallo, j'espère qu'il écoute, donc j'imagine qu'il va bien apprécier. Alors Jules, pour revenir aux Nigérians, aux cadets nigérians, donc ils affrontent le 20 octobre les Chiliens, alors faut-il s'attendre à cette belle performance, que ça va continuer?
Oui, mais ce sera peut-être un peu plus difficile parce que dans cette catégorie de jeunes, ce sont les qualités individuelles qui comptent et généralement les plus, disons que les plus cotés sont les Africains et les Latino-Américains. Donc là, ce sera un match plus relevé pour le Nigeria, je le pense. Mais sinon, le Nigeria est habitué de jouer les grands rôles dans ces compétitions, tout comme d'une manière générale, les équipes venues d'Afrique se comportent bien.
Voilà, il nous reste que 5 petites minutes, donc nous allons changer de sujet. Alors, changer de sujet, je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, en ce moment, on ne fait que parler de ces soupçons de corruption au sein de la FIFA. La justice allemande s'est saisie du dossier. Le parquet de Francfort se penche sur la procédure d'attribution du Mondial 2006 à l'Allemagne en 2000, avec un examen préliminaire qui visera à établir s'il existe un soupçon de corruption pour le gouvernement allemand. La lumière doit être faite sur les accusations. D'après le porte-parole d'Angela Merkel, Stephen Siebert, l'Allemagne est secouée par des allégations d'achat de voix lors de la décision en 2000 de lui attribuer le Mondial 2006. Alors FIFA, évidemment, toujours avec cette question qui fait débat après le lâchage de l'Angleterre. Michel Platini est-il de plus en plus fragilisé dans sa course à la présidence du gouvernement mondial du football? Qu'en pensez-vous? Ils étaient nombreux sur la page Facebook, Eddy, d'avoir fait pas mal de commentaires là-dessus. Donc, en gros, qu'est-ce qu'ils disent, nos Facebookers?
Bon, les réactions sont un peu... Il y en a de toutes sortes. Il y a par exemple Reb Jacob Kabakoubou qui dit ceci. Platini, je pense que son aspect conflictuel lui joue et lui jouera un mauvais tour. C'est depuis l'Inde qu'il a écrit. Et Alphonse, que nous avons déjà vu ici, dit Michel Platini n'a pas d'aura auprès de la CAF et de la CONCACAF et des fédérations asiatiques. Un autre qui dit, sur 54 États de l'Europe qui regroupent l'UEFA, beaucoup sont encore favorables au vote de Michel Platini. Les chances de Michel Platini sont amenuisées en Asie, en Afrique, mais l'UEFA ne l'a pas totalement lâché. Bon, il y a encore un autre qui dit que... les temps est venu pour que les Africains prennent les choses en main. Ça, c'est Panigo Basilois de la RDC. Un autre, Welslev Balingene, de Balingene, il dit pour... Platini, je donne ma langue au chat, donc il ne sait pas, il est indécis.
Oui, indécis. En tout cas, j'ai lu, en fait, j'ai vu un titre, Jacob est en ligne, on va le prendre dans un petit instant. Christophe Kourounzisa, j'ai lu un titre, en fait, ça vient d'un magazine très connu, c'est en ligne, qui a titré « L'Afrique n'aime pas trop Platini ». Peut-être qu'il était aimé en tant que joueur, mais là, maintenant, peut-être dans un rôle plus important, les Africains n'apprécient pas tellement, et bon, avec tout ce qui se passe évidemment en ce moment. Qu'en pensez-vous?
Ils savent, les Africains, très bien le talent footballistique du numéro 10 français qui a gagné la Ligue des Champions au moins 3 fois. Ils savent ces talents footballistiques. Mais on peut se poser aujourd'hui cette question, pourquoi cette affaire de prime ressurgit aujourd'hui, à la veille de l'élection du président de la FIFA? Pourquoi? Qui a donné cette information? Pourquoi cette information est-elle sortie? Est-ce Blatter qui a donné cette information? Tout cela, des questions qu'il faudra toujours se poser à la veille de l'élection du numéro 1 mondial au niveau du football. Mais moi, je tente certaines explications. On n'a jamais aimé que le talent footballistique soit à la tête de cette grande instance footballistique mondiale. Pourquoi? Chaque fois, des gens qui n'ont pas joué au football ont toujours été à la tête de cette instance. Même
absolument.
S'ils ont joué, ils n'ont pas aussi joué comme Platini ou les autres. Donc, moi, je crois qu'il est grand temps
absolument.
De laisser le football
Oui. Le football.
Christophe, j'ai Jacob qui nous appelle de l'Inde. Je suis désolé, peut-être pour l'écouter très rapidement. Jacob, allez-y en deux mots, très, très vite.
Oui, bon, d'après moi, ce que je pense de Michel Platini, je pense qu'il a été un peu trahi par sa propre façon de penser.
Trahi pas, d'accord. Voilà, ce sera le mot de la fin. Point final à cette édition de Sporama. Merci pour vos appels et vos commentaires. Merci également à nos chroniqueurs Salif Kabour, Élisée Oumpatine, Jules Valentin Gouet et Christophe Mourounziza. Georges Léonard Sagnou était à la réalisation. Craig Burns était notre ingénieur. Je vous remercie, c'était Jacques Aristide.